Chers amis, mais oui, les médias sont essentiels et j'imagine que tout comme moi, vous étiez devant votre télévision mercredi et que vous vous êtes réjouis tout comme moi. Vous avez été tout joyeux de cette déclaration qui nous autorise à nous réunir à nouveau dès jeudi prochain pour célébrer ensemble le Seigneur. Et pour ma part, j'ai été frappé par la déclaration de la journaliste juste avant la conférence de presse de nos autorités. Les prières des croyants ont été exaucées. Les prières des croyants ont été exaucées. C'est une phrase qui est sans doute très juste, chers amis. Mais vous me direz, ouais, mais alors, moi ça fait depuis le début du confinement que je prie pour qu'on puisse revenir à la messe, alors pourquoi ma prière à moi, elle n'a pas été exaucée? Parce que ça fait des semaines et des semaines que je prie. Dieu exauce nos prières, chers amis. Je le crois du plus profond de mon cœur. Dieu exauce nos prières, mais pas toujours comme nous le voulons, pas toujours au moment où nous le souhaitons. Eh oui, pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour, comme le dit un psaume. Dieu exauce notre prière, mais nous sommes parfois un petit peu impatients et nous l'attendons parfois là où il n'est pas. Creusons ce thème de la prière, voulez-vous, chers amis, puisque tout dans les textes de ce dimanche nous parle de prière. Mais oui, dans la première lecture, tout d'abord, que nous a lu Florence, dans les Actes des Apôtres, juste après l'ascension de Jésus, vous l'avez entendu, les 11 sont réunis pour prier, et ils ne sont pas seuls. Il y a aussi des femmes, dont Marie, ils prient ensemble, ce que nous allons enfin pouvoir refaire dans quelques jours. Certainement que la prière communautaire a une force incroyable, chers amis, beaucoup plus que la prière dans notre petit coin chez nous. Mais c'est déjà merveilleux que vous puissiez prier devant votre écran encore une fois ce matin. Dans le psaume ensuite, nous entendions « J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, c'est habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » Si ça, c'est pas une prière, alors il ne s'agit pas de demander au Seigneur d'aller le rejoindre, c'est pas ça, habiter la maison du Seigneur tous les jours de notre vie. C'est faire venir le Seigneur dans notre maison, faire en sorte de demeurer avec lui partout où nous sommes, tous les jours de notre vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant ce confinement. Comme le dit un dessin humoristique, le diable a fermé toutes les églises avec son virus, mais Dieu, lui, en a ouvert une dans chacune de nos maisons. Il a fait en sorte que nous puissions demeurer avec lui tous les jours de ce confinement. Et puis le psaume continuait en disant « Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. » Et c'est peut-être le style de cri que vous avez lancé vers Dieu dès le début de ce confinement, soit parce que vous étiez malade, soit parce que vous aviez des connaissances en grande difficulté de santé, soit tout simplement pour retrouver le chemin de nos Eucharisties. Je me dis que la personne qui a écrit ce psaume devait être en grande difficulté pour lancer un tel cri. « Écoute, Seigneur, écoute-moi, je t'appelle !» Peut-être que nous nous retrouvons dans ces paroles. Relisons les psaumes à l'occasion. Ils sont remplis de belles prières, mais aussi de cris vers Dieu. Et le cri, c'est aussi une prière. Quant à la deuxième lecture de ce jour, elle venait appuyer dans ce cas précis la force de la prière. « Si vous souffrez, nous disait Pierre, alors n'ayez pas honte d'appeler Dieu, de rendre grâce aussi à votre Dieu, parce que vous portez le nom de chrétien, parce que l'Esprit de Dieu repose sur vous, parce qu'on vous a appris à prier tout simplement. » Rendre grâce au début d'une prière, voilà quelque chose qu'on oublie souvent de faire. Enfin, je ne veux pas parler trop vite pour vous, chers amis, mais moi, j'oublie souvent de commencer ma prière en disant « Merci Seigneur, merci déjà pour tout ce qui va bien. Avant de te demander quelque chose, je veux d'abord te dire merci. » C'est le sens du texte de notre deuxième lecture. Et puis, évidemment, autant aller regarder dans l'Évangile, surtout aujourd'hui, puisque nous avions un Évangile qui nous parlait de Jésus en prière. Je ne sais pas vous, mais moi j'aimerais bien avoir les images de l'époque. J'aimerais bien voir Jésus prier, méditer. Comment faisait-il? Ben là, on a tout. On avait absolument tout dans le texte de l'Évangile. Contemplons quelques instants ensemble encore, chers amis, Jésus qui prie, tel que nous le racontait l'Évangile de Jean ce matin. Jésus commence par lever les yeux au ciel. Peut-être que c'est une bonne idée d'avoir une posture qui nous convient lorsque nous nous mettons en prière. On peut prier partout, vous savez, pas besoin d'entrer dans une église, mais peut-être qu'il est important d'être bien, d'être à l'aise, d'avoir une posture qui nous aide à prier. Si c'est lever les yeux au ciel, faisons-le. Si c'est nous asseoir, nous agenouiller, faisons-le. Et puis, Jésus commence par dire « Père ». Alors attention, ça n'a rien à voir avec un père un peu obséquieux. Hein, si on vous voyait nos parents par exemple, « Père, voulez-vous me passer le sel, s'il vous plaît ?» Non, ça n'est pas du tout ça. Quand Jésus dit « Père », c'est mon petit papounet chéri d'amour, c'est mon papa à moi, mon papa, écoute-moi. C'est ça le mot hébreu qui est traduit par « Père » dans notre texte d'aujourd'hui. Mon papa que j'aime. C'est un appel plein de tendresse qu'il lance vers le Père, comme celui d'un enfant qui lève les yeux et les bras vers son Père en attendant d'être pris dans ses bras. Jésus nous indiquait ensuite dans sa prière que l'heure est venue. Et il demande à son Père de le glorifier. Alors là encore, on pourrait trouver ça un petit peu saugrenu. Il est gonflé. Il demande à son Père de le rendre célèbre, de lui donner la gloire. Oui, mais non, non, chers amis, la gloire dans la Bible, c'est pas tout à fait la gloire de nos magazines et de nos stars d'aujourd'hui. Glorifier n'a pas du tout ce sens-là dans la langue de Jésus. Si on essayait de rendre le plus fidèlement possible cette prière de Jésus, ça donnerait sans doute quelque chose comme « Père, donne-moi le courage de monter sur cette croix, où je serai visible du monde entier et où je te rendrai tout ce que tu m'as donné en sauvant les hommes. » Fais de moi un signe visible pour que le monde croie. Ah, c'est tout autre chose, évidemment. Ainsi, dans nos prières, chers amis, nous pouvons demander à Dieu certaines choses pour nous-mêmes. Le Christ lui-même l'a fait. Ça me révolte toujours, moi, quand par fausse humilité, on nous disait jadis, c'était particulièrement fort chez les religieux, on nous disait « Oh non, il ne faut pas demander pour soi-même, c'est très orgueilleux, oh là là, surtout pas !» Mais non, c'est pas orgueilleux de demander pour soi-même, Jésus l'a fait. Alors, c'est bien pour nous dire qu'on peut le faire. Simplement, lorsqu'on demande quelque chose pour nous-mêmes, il faut que le but de notre prière soit en Dieu. Il faut que le but de notre prière, ce soit justement de glorifier Dieu, de le rendre visible. Jésus, au jardin des Oliviers, demande à son Père quelque chose pour lui-même. « Éloigne de moi cette coupe de souffrance. » Mais il ajoute tout de suite, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Que ce soit ta volonté à travers ma prière qui soit faite. Alors, je crois qu'on peut prier pour nous-mêmes, mais dans un but bien précis, que nous rendions Dieu visible. Imaginez-vous, en arrivant à un rendez-vous, en retard, vous cherchez une place de parking. C'est terrible, il n'y en a pas. C'est toujours comme ça d'ailleurs. Hein. Plus on est en retard, moins il y a de place de parking. C'est une des règles de Murphy, comme on dit. Hein. Et là, au volant, vous dites « Seigneur, donne-moi une place de parking, je t'en prie !» Ben, ça n'a aucun sens, hein, si vous gardez cette prière comme ça. Il ne va pas vous donner une place de parking. Par contre, si vous donnez du sens à votre prière en disant « Seigneur, aide-moi à ne pas être un mauvais exemple aux yeux des autres, pour que mon attitude tout entière montre que je t'aime. Aide-moi à être quand même pas trop en retard à cette réunion. » Alors, il vous dira peut-être, « Eh ben, t'avais qu'à partir plus tôt, hein, c'est possible !» Mais peut-être que miraculeusement, comme ça m'arrive souvent, vous allez trouver une place, là, là, juste devant le lieu de réunion. Essayez, vous verrez. La prière des époux, ça ne doit pas être « Seigneur, donne-nous d'être fidèles tout au long de notre vie. Bah, » C'est demander pour soi, mais sans rien après. La prière des époux, ça pourrait être « Seigneur, donne à notre amour une telle splendeur, une telle fidélité, que tous ceux qui verront nos gestes d'amour, nos enfants les premiers, se disent « Pour s'aimer ainsi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les soutienne, il faut bien qu'il y ait une force qui existe, il faut bien que Dieu soit avec eux, et qu'ainsi notre amour te glorifie. » La prière du malade ou de celui qui souffre, ce serait par exemple « Seigneur, donne-moi assez de courage, de confiance en toi pour que je traverse ces moments douloureux avec une sérénité sur mon visage pour que ceux qui me verront se disent « Il est impossible que Dieu ne soit pas avec lui. » Ma prière au début de chaque messe, comme je l'ai faite aujourd'hui, est très souvent celle de Mère Teresa. Elle l'avait affichée dans la sacristie de sa petite chapelle à Calcutta et cette prière disait « Toi qui es serviteur du Seigneur, célèbre cette messe comme si c'était la première, la dernière ou la seule. Célèbre de telle manière qu'il soit impossible à ta seule vue de croire que Dieu n'existe pas, disait aussi Mère Teresa. Toute prière doit amener les autres à contempler Dieu. Et vous l'avez entendu, le Christ prie aussi pour nous. Et ça, c'est très touchant. Alors, que notre prière se fasse fervente, vous le voyez, quand on prie, on est exaucé. Et j'aurai la joie de vous retrouver le week-end prochain en chair et en os aux heures habituelles de vos Eucharisties. Amen.